السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا اليوم هو الخامس عشر من شهر محرم لعام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 32 من كتاب الفصول في سيرة الرسول، 33 من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للإمام ابن كثير رحمه الله. Nous sommes le 8 novembre 2014 et nous entrons aujourd'hui dans le 33e cours de l'étude de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, basé sur le livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, les chapitres de la vie du messager. Nous sommes en train de parler de la conquête de la Mecque. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a longuement souffert, il a enduré et il a été éprouvé pendant toutes ces années dans lesquelles il a affronté l'ennemi d'Allah, tabaraka wa ta'ala, en faisant preuve de la plus grande bravoure et de courage, sallallahu alayhi wa sallam. Il a perdu les siens, il a été touché dans son honneur, on lui a porté atteinte, alayhi salatu wa salam. Des compagnons ont été tués, certains devant lui, alayhi salatu wa salam, et d'autres ont été torturés alors qu'il y assistait et ne pouvait rien faire, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est suite à tout cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné l'ordre de quitter Mecca et de rejoindre Al-Madinah pour y instaurer un état basé sur ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré comme règle, un état qui suivrait les ordres d'Allah azza wa jal et ceux du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé à Médine alors qu'il avait 53 ans, alayhi salatu wa salam. Et enfin, après toutes ces épreuves et après cette patience, Allah azza wa jal lui a révélé suratul fath, la sourate de la conquête, sourate 48 du Coran, dans laquelle il informe à son messager sallallahu alayhi wa sallam et à l'ensemble des croyants qu'une victoire éclatante va bientôt leur être accordée. Et cette victoire, c'est premièrement le traité d'Al-Hudaybiyah qui fut une réussite pour les croyants, puisque dans ce dernier, ils se sont mis d'accord avec les ennemis d'Allah tabaraka wa ta'ala pour faire une trêve sur une période de 10 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a profité de cette trêve pour aller conquérir les tribus avoisinantes et appeler les gens à la religion d'Allah azza wa jal, ce qui a fait augmenter considérablement le nombre de musulmans qui ont rejoint les rangs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également ce qui les a renforcés en termes d'armes. Ils étaient donc prêts à la conquête qu'Allah tabaraka wa ta'ala va leur écrire sans qu'eux-mêmes ne le sachent, car à la base il est prévu de faire une trêve de 10 ans, et dans la deuxième année, précisément 1 an et 9 mois après, il y a eu cette trahison qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de se diriger vers la Mecque pour la conquête. Nous avons parlé la semaine dernière des débuts de la conquête de Mecca, quand le prophète se prépare et prépare les compagnons, radiyallahu anhum, et nous avons vu la cause de la conquête de Mecca, qui est cet homme qui s'appelle Nawfal ibn Muawiyah ad-Dili, qui à l'époque n'était pas encore croyant, mais qui après va devenir musulman et il va embrasser l'islam. Walillahil hamdu wal minna, qui a réuni un groupe de personnes et lui faisait partie de la tribu qui avait suivi Quraysh, car il y avait deux tribus, Khuza'a et Banu Bakr. Et une tribu avait suivi Quraysh dans le traité, elle a rejoint le camp de Quraysh, et l'autre tribu a rejoint le camp du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Banu Bakr sont ceux qui ont rejoint Quraysh, Khuza'a sont ceux qui ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette époque, Nawfal ibn Muawiyah ad-Dili, qui va devenir musulman, ne l'était pas encore. Il faisait partie des Banu Bakr et il a réuni un groupe de personnes pour attaquer les Khuza'a. Et ensuite, le peuple de Quraysh a aidé Banu Bakr contre Khuza'a. Et donc, ils ont trahi le pacte et n'ont pas respecté le traité de paix sur lequel ils s'étaient mis d'accord pour faire une trêve de 10 ans. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette information, il a immédiatement préparé un groupe fort de 10 000 hommes afin de se diriger vers Mecca pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces ennemis d'Allah qui ne cessent d'agresser les musulmans, de rompre les pactes et de trahir à leurs paroles. C'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Nawfal ibn Muawiyah ad-Dili radiyallahu an, il a embrassé l'islam. Et regardez combien est grande la miséricorde d'Allah et la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'au début, cet homme-là est un ennemi de l'islam. Il va trahir le pacte et il va demander de l'aide à des gens pour rompre le pacte. Et ensuite, il va devenir musulman. C'est-à-dire qu'il va être la cause de la conquête de la Mecque par les musulmans. Et ensuite, il va rejoindre les musulmans, il va profiter de cette conquête. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui il veut, et c'est lui seul qui égare qui il veut, azza wa jal. Et la semaine dernière, on s'est arrêté à la partie où on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en lui demandant d'aveugler le peuple de Quraysh afin qu'il ne sache pas que les compagnons et que les croyants se dirigent vers Quraysh, vers la Mecque, pour la conquête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation lui informant que Hatib ibn Abi Balta'a radiyallahu anhu, qui était un compagnon et qui était émérite puisqu'il a participé à la bataille de Badr, est tombé dans une grave erreur. Mais Allah Azza wa Jal lui a expié cette faute du fait qu'il faisait partie de Badr grâce à Allah. Cette faute, on en a parlé à travers le dernier cours, il a envoyé une lettre à Quraysh pour informer les ennemis d'Allah Azza wa Jal de ce que va entreprendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, accompagné des sahaba, des compagnons radiyallahu anhum, et il envoie donc Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu avec 2 autres compagnons pour récupérer ce message afin qu'il n'arrive à Quraysh. Et ils ont réussi à attraper cette femme qui a dissimulé cette lettre dans ses cheveux, puis lui ont demandé de sortir ce message. Cette femme a dit: je ne sais pas de quoi vous parlez, je n'ai rien avec moi. Ali radiyallahu anhu lui a dit: par Allah, soit tu nous donnes de plein gré ce message, soit on te mettra à nu et on ne repartira que le message en main. Cette femme a sorti ce message de ses cheveux et lui a rendu, et voici qu'il y était écrit: lettre qui provient de Hatib ibn Abi Balta'a et qui est dirigé à Quraysh, voici les intentions de Mohammed et de son armée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Hatib, il l'a interrogé sur ce qui l'a poussé à agir ainsi. Hatib s'est excusé et a montré que c'est une faiblesse de sa part et qu'il n'est pas un apostat, murtad, qu'il n'est pas un mécréant, un kafir, mais qu'il n'a fait cela que à cause d'un bien qu'il voulait protéger à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: tu as dit vrai. Puis quand un compagnon, Omar radiyallahu anhu, a demandé la permission de l'exécuter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: wa ma yudrik annahu shahida badran wa inna allaha tala'a ala ahli badrin faqala lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Souviens-toi qu'il a assisté à la bataille de Badr et qu'Allah a dit à ceux qui ont assisté à la bataille de Badr: faites ce que vous voulez à présent car je vous pardonne vos péchés. On a répondu aussi à l'ambiguïté qui est émise par les gens du takfir, le khawarij, qui prennent ce hadith et qui disent qu'en réalité cet acte qui a été fait par Hatib radiallahu anhu est de la mécréance majeure. Mais Hatib a un cas propre à lui-même, c'est le fait qu'il était présent à la bataille de Badr. Sinon, toute personne qui fait exactement la même chose qu'a fait Hatib radiallahu anhu sort immédiatement de l'islam sans poser la question: qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Et on a vu la réponse des savants de la sunna sur cette ambiguïté, qui est de dire que premièrement Allah tabaraka wa ta'ala, quand il dit faites ce que vous voulez car à présent je vous ai pardonné, il ne le dit que car il sait que ces gens-là ne tomberont pas dans la mécréance. Car il est impossible qu'Allah tabaraka wa ta'ala sache qu'un individu va dans le futur tomber dans la mécréance et lui dise, avant même qu'il ne tombe dans cette mécréance, fais ce que tu veux, je te pardonne. C'est ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Al-Fawa'id. La deuxième chose, c'est que la présence à la bataille de Badr est sans aucun doute une action méritoire qui efface les péchés. Mais en aucun cas elle ne peut effacer la mécréance majeure. Seul le retour à l'islam efface la mécréance majeure. Ceci étant dit, قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فخرج صلى الله عليه وسلم لعشر خلون من رمضان في عشرة آلاف مقاتل من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، وقد ألفت مزينة وكذا بن سليم على المشهور رضي الله عن جميعهم، واستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة أبا رهم كلثوم بن حصين وهو الغفاري من أهل بيعة الرضوان، ولقيه عمه العباس إلى ذي الحليفة وقيل إلى الجحفة، فأسلم ورجع معه صلى الله عليه وسلم وبعث ثقله إلى المدينة، أي بعث أهله وماله إلى المدينة. ولما انتهى صلى الله عليه وسلم إلى نيق العقاب، اسم لمكان، جاءه ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، وعبد الله ابن أبي أمية أخو أم سلمة مسلمين، فطردهما فشفعت فيهما أم سلمة وأبلغته عنهما ما رققه عليهما فقبلهما فأسلما أتم إسلام رضي الله عنهما بعدما كان أشد الناس عليه، وصام صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له الكديد بين عسفان وأمج من طريق مكة، فأفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس، وأرخص للناس في الفطر ثم عزم عليهم في ذلك، فانتهى صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران وهو اسم لوادي يقع في مكة فبات به. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala continue à raconter ce qui s'est passé pendant la conquête de Mecca lorsqu'il dit: le 10 du mois de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitta Médine. Donc ici nous avons la date exacte au cours de laquelle a débuté cette conquête, le 10 du mois de Ramadan. En quelle année? Qui a la réponse? En quelle année? Personne a la réponse? Hein? Fi ayi amin? Am tis'a? En l'an 8. Fi l'am al-thamin min al-hijra. En l'an 8 de l'Hijra. le 10 du mois de Ramadan, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quitte à Médine à la tête de 10 000 hommes, émigrés et ansar, et membres d'autres tribus arabes, 1000 hommes de Muzayna et autant des Bani Sulaym, ce sont les noms de deux tribus arabes, participèrent à la conquête de la Mecque selon la version la plus sûre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam laissa à Médine pour gérer les affaires des musulmans, comme à son habitude, Abu Ruhm, Kalthoum ibn Husayn, son oncle paternel, Al-Abbas, c'est le frère du père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, venu à sa rencontre, il n'était pas encore musulman. Et c'est en l'an 8 de l'Hégire, pendant la conquête Am al-Fath, Aslam al-Abbas, que s'est converti à l'islam l'oncle paternel Al-Abbas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Venu à sa rencontre, se présenta à lui à Dhul-Hulayfa, ou dit-on Al-Juhfa. Dhul-Hulayfa, c'est le nom du point de départ géographique de la Umrah. D'où commence la Umrah lorsqu'on l'on quitte Médine pour se rendre à la Mecque pour y effectuer les 7 tours autour de la Kaaba et les va-et-vient entre Safa et Marwa, ce qu'on appelle la Umrah. On part de Dhul-Hulayfa. Et pour, en fonction du pays ou de l'endroit d'où vient le pèlerin, il a un miqat, un point de départ géographique qui lui est déterminé. Ils sont au nombre de 5, parmi lesquels Dhul-Hulayfa et Al-Juhfa. Et donc, c'est à un de ces deux endroits, selon une divergence des historiens, que l'Abbas a rencontré son neveu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui déclara sa conversion à l'islam. Al-Abbas retourna ensuite à la Mecque en compagnie de son neveu sallallahu alayhi wa sallam. Il allait donc à Médine pour se convertir à l'islam. Et en route, qui est-ce qu'il croise ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient à la Mecque pour la conquérir. Il décide d'embrasser l'islam et de revenir à la Mecque avec lui pour la conquête. Tandis que sa famille et ses bagages étaient envoyés à Médine. Donc il a demandé à sa famille de prendre. Al-Abbas a ordonné à sa famille de prendre les bagages et de les conduire à Médine. Arrivé à un endroit appelé Niq al-Uqab, se présentèrent à lui son cousin Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib, ainsi que Abdullah ibn Abi Umayya, le frère de Umm Salama. Ces deux personnages à l'époque faisaient partie des ennemis les plus acharnés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce jour-là, ils sont venus à lui pour entrer dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tous deux proclamèrent leur islam au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui malgré cela les renvoya. Le prophète ne voulait pas les accepter. Et donc, Umm Salama, radiyallahu anha, va intercéder pour eux et le prophète va les accepter, sallallahu alayhi wa sallam. Umm Salama intercéda alors en leur faveur et lui transmit de leur part des mots qui réussirent à l'adoucir. Ces deux personnes, ou ces deux personnages qui sont venus sont Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. C'est un cousin paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième, Abdullah ibn Umayya, est le cousin maternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète les a refusés. Umm Salama lui a dit des paroles pour réussir à l'adoucir. Quelles sont ces paroles? Elle lui a dit Ibn ammika wa ibn khalatik la taj'alhuma ashqa an-nas bik. Celui-ci est le fils de ton oncle paternel. Celui-ci est le fils de ta tante. Ne rends pas ces gens-là les gens les plus tristes avec toi. Donc elle a usé du lien de parenté qui lie ces gens-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander de les accepter et de ne pas les rejeter. Ces paroles ont adouci le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il les a acceptées. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam finit donc par accepter les deux hommes qui, après avoir été ses pires ennemis, devinrent de bons musulmans. Et encore une fois dans la sirah, on voit qu'Allah tabaraka wa ta'ala guide qui il veut et égare qui il veut. Il y a des compagnons qui, avant de l'être, faisaient partie des ennemis les plus farouches ou les plus acharnés contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, quand Allah tabaraka wa ta'ala a guidé leur cœur et leur a ouvert la porte de l'islam, ils faisaient partie des meilleurs parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna jusqu'à atteindre un point d'eau appelé Hudayd. Car, comme vous venez de l'entendre, cette conquête a eu lieu pendant le mois de Ramadan. Et au début de la journée, le prophète jeûnait, sallallahu alayhi wa sallam. Mais par la suite, il va rompre son jeûne. Et il va le faire devant tout le monde, afin que eux aussi le suivent et comprennent qu'il n'y a pas de mal à rompre le jeûne dans cette situation qui est safar, le voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna jusqu'à atteindre un point d'eau appelé Hudayd, situé sur la route de la Mecque entre Usfan et Amaj. À cet endroit, et après la prière du Asr, il rompit son jeûne sur sa monture afin d'être vu des musulmans. Il a fait exprès de boire, de manger sur le dos de sa monture, dans une position élevée, afin que les gens qui sont avec lui puissent le voir. Il permit aux gens de rompre leur jeûne avant de les exhorter à le faire. C'est-à-dire qu'au début, il leur a expliqué qu'il était permis, dans cette situation, de rompre le jeûne et de le rattraper, nombre de jours ratés plus tard. Donc au début, il n'était question que de permission. Mais par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés à rompre le jeûne, chose qu'ils ont faite, radiyallahu anhum. Les musulmans poursuivirent ensuite leur voyage jusqu'à Marr al-Zahran. Marr al-Zahran, c'est le nom d'une vallée qui se situe au nord de la Mecque à 40 km et qui aujourd'hui est connue sous le nom de Wadi Fatima, la vallée de Fatima. Et Fatima, c'est l'épouse d'un homme qui gouvernait à la Mecque il y a longtemps de cela et qui était connu pour son bien. Quoi qu'il en soit, lorsqu'ils sont arrivés au nord de la Mecque, à 40 km, à cet endroit appelé à l'époque Marr al-Zahran et aujourd'hui Wadi Fatima, où ils campèrent et passèrent la nuit. Ils se sont arrêtés pour passer la nuit. Quant aux polythéistes de Quraysh, Allah leur dissimula les intentions des musulmans. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, va continuer et nous dit: wa amma quraish fa amma Allah alayha al-khabar illa annahum qad khafu wa tawahhamu min dhalik falamma kanat tilka al-layla kharaja ibn Harb wa huwa Abu Sufyan wa Budayl ibn Warqa wa Hakim ibn Hizam yatajassasuna al-khabar falamma ra'aw an-niran ankaruha faqala Budayl hiya nar Khuza'a faqala Abu Sufyan خزاعة أقل من ذلك وركب العباس بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذ وخرج من الجيش لعله يلقى أحدا فلما سمع أصواتهم عرفهم فقال أبا حنظلة أي ناداه بكنيته وأبو حنظلة هو أبو سفيان فعرفه أبو سفيان فقال أبو الفضل أي أنت أبو الفضل أي أنت العباس قال نعم قال ما وراءك قال ويحك هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش قال فما الحيلة قال والله لئن ظفر بك ليقتلنك أي إذا تمكن منك ومن أخذك قتلك ولكن اركب ورائي وأسلم. فركب وراءه وانطلق به فمر في الجيش، فكلما أتى على قوم يقولون هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مر بمنزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما رآه قال عدو الله، فالحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ويركض العباس البغلة ويشتد عمر رضي الله عنه في جريه وكان بطيئا، فسبقه العباس فأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر في أثره، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرب عنقه، فأجاره العباس مبادرة، فتقاول هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ابن كثير رحمه الله تعالى dit néanmoins, en parlant de Quraysh, quant aux polythéistes de Quraysh, Allah leur dissimula les intentions des musulmans. Néanmoins, ils furent inquiets et se doutèrent de quelque chose. Abu Sufyan a été pris par le doute. Il s'est dit, il faut absolument que l'on aille vérifier. Il se peut que les musulmans préparent quelque chose contre nous. Le silence est bizarre et il est étrange. Allons donc vérifier. C'est ce qu'ils ont été faire. Ils ont été vérifiés et regardez ce qu'ils vont trouver. Aussi cette nuit-là, Ibn Harb, c'est-à-dire Abu Sufyan, Ibn Harb, ainsi que Boudayl Ibn Warqa et Hakim Ibn Hizam sortirent de la Mecque afin de recueillir les informations. Ce sont donc trois mécréants à cette époque-là. Mais Allah tabaraka wa ta'ala va les guider à l'islam. هؤلاء الثلاثة دخلوا في الإسلام بهداية من الله عز وجل. Hakim ibn Hizam, lorsqu'il s'est converti à l'islam, il avait 97 ans. 97 ans في الكفر بالله والشرك به. Dans la mécréance, dans le polythéisme. Et quand Allah tabaraka wa ta'ala décide de lui ouvrir la porte de l'islam et de le guider, il embrasse l'islam alors qu'il a 97 ans, ce qui nous montre qu'Allah guide qui il veut et il égare qui il veut, et que personne ne doit désespérer. Ceux qui ont des proches qui ne sont pas musulmans ne savent pas comment Allah Azza wa Jal est capable de guider. Et ceux qui ont des proches qui sont musulmans et pieux ne doivent pas être à l'abri qu'Allah ne les égare. Subhanahu wa ta'ala. En voyant des feux allumés dans la nuit, ils ne surent à qui il appartenait. Ils se sont arrêtés et ont vu du feu. Ces trois hommes ont vu des flammes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à ses compagnons, allumez tous un feu. Ce n'est pas pour rien, mais c'est pour impressionner l'ennemi. Car l'ennemi à l'époque, ou quand il y avait une guerre, pour estimer le nombre de l'ennemi, il fallait regarder plusieurs aspects. Combien est-ce qu'ils avaient de chameaux? Et aussi, le feu qu'ils allumaient, que ce soit pour se réchauffer ou pour cuisiner. S'il y avait beaucoup de flammes, cela voulait dire que le nombre était grand. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « Allumez tous un feu ». Et ils ont tous allumé un feu. Et quand Abu Sufyan et ses compagnons sont arrivés, ils ont vu d'énormes feux qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir. Ils ont été étonnés et ont commencé à discuter entre eux. Boudayl affirma qu'il s'agissait de deux feux allumés par Khuza'a, la tribu arabe connue. Mais Abu Sufyan rétorqua que les membres de cette tribu étaient moins nombreux que cela. Abu Sufyan a dit, c'est impossible que ces feux soient allumés par la tribu de Khuza'a, car si c'était le cas, il y aurait moins de flammes, car leur nombre n'est pas aussi grand que le nombre de flammes que l'on voit. Al-Abbas, quant à lui, monta cette nuit-là, la mule du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et quitta le campement musulman, se disant qu'il trouverait peut-être quelqu'un. Lui aussi, il quitte le camp des musulmans et va voir ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce qu'ils préparent quelque chose? Est-ce que les ennemis sont au courant de la venue des croyants, des musulmans? Et donc, quand il prend la route, qui est-ce qu'il rencontre? Ou du moins, qui est-ce qu'il entend? Les trois parmi les ennemis d'Allah Azza wa Jal, qui après vont devenir musulmans. Ayant reconnu les trois hommes à leur voix, il dit Abu Hanzala. Abu Hanzala, c'est la deuxième kunya de Abu Sufyan. Abu Sufyan n'est pas son prénom, c'est une kunya. Son prénom c'est Sakhr ibn Harb radiyallahu an. Mais il avait deux kunya par lesquelles on l'appelait Abu Sufyan et également Abu Hanzala. Abu al-Fadl, qui est Al-Abbas, l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'interpelle et lui dit Abu Hanzala. Abu Sufyan, le reconnaissant à son tour, c'est-à-dire par sa voix, dit Abu al-Fadl, est-ce que c'est Al-Abbas? Oui, répondit Al-Abbas. Abu Sufyan demanda qui a-t-il derrière toi? C'est-à-dire, informe-moi de toutes ces flammes et de tous ces feux. Qui en sont les auteurs? Al-Abbas répondit malheur à toi, il s'agit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à la tête d'une armée. Gare à Quraysh. Et la vraie expression employée est wa sabah à Quraysh, qui voudrait approximativement dire ô combien est dangereux ce matin pour Quraysh. Et donc, Abu Sufyan, pris par la peur, demanda que dois-je faire? Il sait qu'il n'y a plus de solution. Il sait qu'il est en tort depuis le début. Il sait qu'il a trahi le pacte. Il sait qu'il n'a cessé de réunir des gens, de les exciter contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sait qu'il est l'auteur de tous ces crimes. Il sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour en finir avec lui et son armée. Il sait qu'il n'y a plus d'issue. Il se trouve dans une impasse. Alors il se dit, je vais demander à Abu al-Abbas. Et il lui dit, donc, que dois-je faire? Al-Abbas lui dit en jurant, par Allah, s'il met la main sur toi, il te tuera. Aussi, monte derrière moi et convertis-toi. C'est-à-dire, la seule issue que je pense être pour toi bonne et favorable, c'est que tu embrasses l'islam avant qu'il ne vienne t'attaquer. Car si il parvient à entrer dans la Mecque et te trouve, il ne te n'accordera aucun répit et il te tuera. Abu Sufyan n'avait aucun autre choix que de monter derrière Al-Abbas et de venir embrasser l'islam. Et donc, Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit Abu Sufyan monta donc en croupe derrière Al-Abbas et les deux hommes passèrent devant l'armée musulmane. Chaque fois qu'ils croisaient un groupe de musulmans, ces derniers se disaient il s'agit de l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam monté sur sa mule. Mais lorsque passant à l'endroit où campait Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, ce dernier reconnut Abu Sufyan, il s'écria ennemi d'Allah, que soit loué celui qui t'a mis à ma merci sans que tu ne sois protégé par un pacte ou un traité. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu est connu pour l'envie qu'il a de secourir la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, particulièrement physiquement. Et donc, lorsque Omar voit Abu Sufyan qui est devant les musulmans, il n'a pas besoin de courir pour l'attraper, il n'a pas besoin d'user de stratagèmes, il n'a pas besoin de combattre l'ennemi d'Allah, celui qui a réuni les 10 000 hommes pour la bataille de la tranchée, les coalisés, celui qui n'a cessé d'exciter les tribus arabes et les juifs, même les chrétiens, pour achever et éradiquer les musulmans, il est là aujourd'hui devant moi. Omar ibn Khattab lui dit, c'est une aubaine, c'est une occasion qui s'offre à lui. Et donc il va vouloir l'assassiner, mais il ne va pas réussir. Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit, celui qui t'a mis à ma merci sans que tu ne sois protégé par un pacte ou un traité. Al-Abbas faisait galoper la mule. Donc quand Al-Abbas a vu Omar arriver, il a essayé de faire accélérer la mule pour arriver au prophète, alayhi salatu wassalam, avant que Omar ne l'attrape et ne l'exécute. Et quand Omar a vu la mule courir, il s'est mis à courir derrière elle. Mais Omar, radiallahu anhu, ne courait pas vite. Il n'a pas réussi à le rattraper. Al-Abbas faisait galoper la mule, tandis que Omar courait derrière eux. Mais Omar était lent. Al-Abbas le devança. Il introduisit Abu Sufyan chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors que Omar arriva sur leurs traces. Ce dernier demanda au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la permission de lui trancher la nuque. Omar entre chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, « Ya Rasulallah, i'adhanli fi darbi unuqi. » Ô messager d'Allah, accorde-moi la permission de lui trancher sa nuque. Mais Al-Abbas s'empressa de lui accorder sa protection. Et donc Omar n'a pas pu. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu et Al-Abbas s'engagèrent alors dans une dispute. Omar dit, c'est l'ennemi d'Allah, il nous a causé du tort et il a porté atteinte au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à son honneur. Il a été la cause de l'exécution de beaucoup de musulmans. Ne m'empêche pas de l'exécuter. Al-Abbas rétorque, il est venu pour embrasser l'islam. Tu n'as pas le droit de t'opposer. Et voilà qu'une dispute prend naissance entre eux. Et donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, demanda à Al-Abbas de revenir le lendemain avec son protégé. Des gens pourraient se demander, pourquoi est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Al-Abbas, qui protégeait Abu Sufyan, de partir avec lui et de revenir demain, le lendemain, sans qu'il n'adhère à l'islam avant de le laisser partir. La réponse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu qu'Allah tabaraka wa ta'ala mette dans le cœur de Abu Sufyan l'amour de l'islam et des musulmans en passant une journée dans la mosquée, dans l'endroit de campement des musulmans. Qu'est-ce qu'il va y voir? Il va y voir la solidarité qu'il y a entre les musulmans. Il va y voir les ablutions qui vont être accomplies. Il va voir que tous ces hommes-là font la même chose à la même heure. Ensuite, la prière, ils se mettent en rang droit derrière un seul et même imam. Ils voient toutes ces choses-là pendant toute la journée. Comme ça, quand le lendemain, ou plutôt la soirée, il va venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va avoir tous ces éléments en tête. Le prophète va lui exposer l'islam, il va l'accepter. C'est exactement ce qui s'est passé grâce à Allah tabaraka wa ta'ala. Au matin, Al-Abbas et Abu Sufyan se trouvèrent donc devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui invita ce dernier à embrasser l'islam. Abu Sufyan marqua alors un temps d'hésitation, mais devant les remontrances d'Al-Abbas, il décida finalement de se convertir. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأتيه به غدا فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فتلكأ قليلا أي تردد قليلا ثم زجره العباس أي رفع عليه صوته وأمره أن يدخل في الإسلام فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. ابن كثير رحمه الله تعالى دي أبو سفيان marqua alors un temps d'hésitation, c'est-à-dire que il a vu toutes ces choses-là. En réalité, il sait à ce moment-là que l'islam est la vérité. Il sait que tôt ou tard, il sera dans l'obligation d'entrer dans cette religion. Sinon, il va perdre son bas-monde et l'au-delà. Mais il a quand même une hésitation. Car le peuple de Quraysh est un peuple fanatique à son dogme, à l'adoration des idoles. Et c'est dur pour ce peuple de se détacher de ces idoles, même s'ils savent que la vérité n'est nulle part ailleurs que dans la religion de l'islam, la religion d'Allah. Ce qui a fait qu'il a eu un temps d'hésitation. Mais devant les remontrances d'Al-Abbas, qui lui a dit, crains Allah et entre dans cette religion que tu as connue et dont tu as vu la véracité, et la réalité, il se décide finalement à se convertir. Al-Abbas s'adressa alors à son neveu, c'est-à-dire au messager, alayhi salatu wasalam, en ces termes, « Ô messager d'Allah, Abu Sufyan est un homme qui aime les honneurs. » C'est-à-dire, Abu Sufyan est un homme qui a l'habitude d'être au-dessus des autres. Il a l'autorité sur les autres. C'est-à-dire, honore-le, donne-lui un honneur sur les autres, ô messager d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il invite les gens à l'islam, il prend en compte le rang social de ces gens-là. Il prend en compte leur rang social, il prend en compte leur statut chez les gens. Et donc, il voit qu'Abu Sufyan est connu pour l'autorité. Il dit une phrase qui va adoucir son cœur. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Quiconque entrera dans la maison d'Abu Sufyan sera en sécurité. Quiconque fermera sa porte sera en sécurité. Et quiconque entrera dans la maison sacrée sera en sécurité. » Et donc, en prononçant ces paroles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a honoré Abu Sufyan en lui donnant ce qu'il avait toujours l'habitude d'avoir, ce qui est l'autorité sur les autres. قال ابن حزم هذا نص في أنها فتحت صلحا لا عنوة. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit que l'imam Ibn Hazm, qui a un écrit dans la Sirah, a dit: ce récit prouve que la Mecque ne fut pas conquise par la force. Et ceci fait l'objet d'une divergence entre les historiens, qui est la question: comment est-ce que la Mecque fut conquise? Par la force ou avec un traité? C'est-à-dire par la paix. Il y a deux avis sur cette parole. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans Zad al-Ma'ad, dans son livre Zad al-Ma'ad, a cité ces deux avis et a déduit que la Mecque a été conquise par la force. Ibn Kathir rahimahullah continue et dit: il s'agit d'ailleurs de l'un des avis des savants de l'islam et l'avis le plus récent de l'école de l'imam Shafi'i rahimahullah. Il dit: قلت هذا أحد أقوال العلماء وهو الجديد من مذهب الشافعي واستدل على ذلك أيضا بأنه لم تخمس ولم تقسم والذين ذهبوا إلى أنها فتحت عنوة استدلوا بأنهم قد قتلوا من قريش يومئذ عند الخندمة نحو من 20 رجلا واستدلوا بهذا اللفظ أيضا فهو آمن والمسألة يطول تحريرها هاهنا وقد تناظر الشيخان في هذه المسألة أعني تاج الدين الفزاري وأبا زكريا النووي ومسألة قسمة الغنائم والغرض أنه صلى الله عليه وسلم أصبح يومه ذلك سائرا إلى مكة وقد أمر صلى الله عليه وسلم العباس أن يوقف أبا سفيان عند خطم الجبل لينظر إلى جنود الإسلام إذا مرت عليه. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: ce qui prouve également que la Mecque fut conquise sans combat est que le butin pris lors de cette conquête ne fut pas réparti entre les combattants musulmans qui y avaient pris part. Quant à ceux qui affirmaient que la Mecque fut conquise par la force, ils se fondent sur le fait que les musulmans, lors de la prise de la ville, celle de la Mecque, tuèrent une vingtaine de mécréants près du mont de Al-Khandama. Al-Khandama, c'est une montagne. Donc ici, il cite les deux avis, rahimahullah ta'ala. Le premier est celui adopté par une partie de savants historiens qui disent que la Mecque a été conquise sans pour autant qu'il n'y ait besoin de recourir à la force. D'autres disent non, la Mecque a été conquise par la force. Ceux qui disent qu'elle n'a pas été conquise par la force disent qu'il n'y a pas eu de butin. Et quand il y a conquête par la force et bataille ou guerre, il y a forcément un butin après. Il n'y a pas eu de butin après la conquête de la Mecque. Pour eux, cela prouve qu'elle n'a pas été conquise par la force. Les autres disent qu'il existe 20 personnes parmi les koufars de Quraysh qui ont été exécutés par Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu et les armées des musulmans. Et donc il y a eu usage de force. Donc la Mecque a été conquise par la force. Et Allah tabaraka wa ta'ala est bien plus connaisseur de la vie le plus juste. Quant à ceux qui affirment que la Mecque fut conquise par la force, ils se fondent sur le fait que les musulmans, lors de la prise de la ville, tuèrent une vingtaine de mécréants près du mont Al-Khandam. En outre, selon eux, ces paroles du messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire lorsqu'il a dit « Celui qui entre chez Abu Sufyan est en sécurité ». Donc si on dit qu'il est en sécurité, c'est bien qu'il est en sécurité d'une crainte. Quelle est cette crainte? La force dont ils ont fait usage. Ceci est un argument utilisé par ceux qui ont cet avis. Démontre que la force fut employée. D'ailleurs, il serait trop long de répondre à cette question ici. Les deux érudits, Tajuddin al-Fazari et Abu Zakariya al-Nawawi, se sont d'ailleurs opposés sur cette question ainsi que sur la question du partage du butin. Toujours est-il que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dirigea ce matin-là vers la Mecque. Il avait avant cela ordonné à l'Abbas de demander à Abu Sufyan de s'arrêter au sommet de la montagne afin de regarder les soldats musulmans passer devant lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à l'Abbas de prendre Abu Sufyan et de le placer dans un endroit élevé qui va faire que quand les troupes musulmanes vont passer devant lui, Abu Sufyan va les voir. Et ce n'est pas pour rien que le prophète a demandé que cette chose soit faite. Mais c'est pour que Abu Sufyan voit et qu'il se rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, lui-même avait formé une armée de 10 000 hommes dans la bataille des coalisés de la tranchée. Et pourtant, les musulmans n'étaient que 3 000 et les mécréants n'avaient pas réussi à éradiquer ou à vaincre les musulmans. Pour qu'il se rappelle également tous ces moments où il a voulu combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une époque où il n'avait ni armes, ni biens financiers, et il n'avait pas un grand nombre d'hommes. Et il voit aujourd'hui que finalement, les musulmans sont 10 000, et qu'ils vont entrer à la Mecque, s'emparer de cette ville, ou de ce village, afin qu'ils se disent vraiment, ceci est la preuve que c'est la vérité qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'après avoir réfléchi, il n'y a aucun doute sur le fait que ces gens-là sont aidés par le Créateur, Allah tabaraka wa ta'ala, ce qui va faire naître en lui l'amour de l'islam après l'animosité que son cœur portait avant qu'il ne soit musulman. Ibn Kathir continue. وقد جعل صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه على المقدمة أي في الأمام وخالد بن الوليد رضي الله عنه على الميمنة اليمين والزبير بن العوام رضي الله عنه على الميسرة الشمال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب الوسط وكان أعطى الراية سعد بن عبادة رضي الله عنه فبلغه أنه قال لأبي سفيان حين مر عليه يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة أي يوم القتال اليوم تستحل الحرمة والحرمة هي الكعبة فلما شكى أبو سفيان ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة فأمر بأخذ الراية من سعد فتعطى عليا وقيل الزبير وهو الصحيح وأمر صلى الله عليه وسلم الزبير أن يدخل من كدا من أعلى مكة وأن تنصب رايته بالحجون وأمر خالدا أن يدخل في كدي من أسفل مكة وأمرهم بقتال من قاتلهم. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم plaça Abu Ubaida ibn al-Jarrah à la tête de l'avant-garde. Il désigna Khalid ibn al-Walid comme commandant de l'aile droite et Zubayr ibn al-Awwam sur l'aile gauche. Quant au messager, sallallahu alayhi wa sallam, il était au centre de l'armée. Il avait désigné comme porte-étendard Sa'd ibn Ubaida qui, en passant devant Abu Sufyan, avait dit Abu Sufyan, aujourd'hui les combats seront acharnés. Il dit Al-Yawmu Yawmu Al-Malhama. Aujourd'hui, c'est le jour de Al-Malhama. Al-Malhama, c'est un terme qui désigne ou qui signifie le combat. Et on appelle le combat Al-Malhama, cela vient de Al-Lahm. Al-Lahm, en arabe, c'est la chair. On a appelé le combat Malhama, car pendant le combat, les chairs sont déchiquetées et découpées. Donc c'est-à-dire que Al-Malhama, c'est le combat où sont déchiquetées les chairs, où le sang coule. Et Sa'd ibn Ubadah a dit à Abu Sufyan, aujourd'hui le sang va couler et les chairs seront déchiquetées. Aujourd'hui, les combats vont être autorisés autour de la Kaaba. Quand Abu Sufyan a entendu cette parole, Abu Sufyan est quelqu'un qui estime grandement la Kaaba. Lorsqu'Abu Sufyan se plaignit de ces paroles au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il s'agit, c'est-à-dire le messager dit, il s'agit plutôt d'un jour où sera honorée la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna alors que la bannière soit retirée de Sa'd et confiée à Ali ou à Zubayr, ce qui est la version la plus juste. Donc, il a enlevé la bannière de la main de Sa'd ibn Ubadah. Qui est Sa'd ibn Ubadah? Qui est Sa'd ibn Ubadah? C'est le chef d'une tribu. De quelle tribu? Hein? D'Al-Khazraj, radiyallahu anhu. Sa'd ibn Mu'adh est le chef de la tribu des Aws. Ces deux tribus forment une tribu, celle des Ansar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Zubayr d'entrer à la Mecque par l'endroit appelé Kada, par le haut de la cité, et hisser l'étendard Al-Hajoun. Al-Hajoun, c'est le nom d'un endroit à Mecca. Il ordonna à Khalid ibn al-Walid d'entrer dans la ville de par Koudaï, par le bas de la Mecque. Il ordonna enfin aux musulmans de combattre quiconque se mettrait sur leur route. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا جمعا بالخندمة فمر بهم خالد بن الوليد فقاتلهم فقتل من المسلمين ثلاثة وهم كرز بن جابر من بني محارب بن فهر وحبيش ابن خالد ابن ربيعة ابن أصرم الخزاعي وسلمة بن الميلاء الجهني رضي الله عنهم وقتل من المشركين 13 رجلا وفر بقيتهم. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: Ikrima, le fils d'Abu Jahl, mais aussi Safwan ibn Umayyah et Suhail ibn Amr avaient rassemblé des hommes à Al-Khandama. Al-Khandama, c'est le nom d'une montagne à la Mecque. Les trouvant sur sa route, Khalid ibn al-Walid les combattit. Trois musulmans trouvèrent la mort, dont les combattants. Kurz ibn Jabir, du clan des Banu Muharib ibn Fihr. Le deuxième, Hubaysh ibn Khalid ibn Rabi'a ibn Asram, de la tribu Khuza'a. Et le troisième, Salama ibn Mayla al-Juhani. Qu'Allah les agrée. En outre, 13 polythéistes furent tués au cours de ces combats, le reste parvenant à prendre la fuite. Par rapport à ces trois hommes, ces trois musulmans qui ont été tués, le premier c'est Kurz ibn Jabir. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Ce nom te dit quelque chose? Est-ce que ce nom dit quelque chose à quelqu'un d'autre? Naam? La. Man huwa Kurz ibn Jabir? Kurz ibn Jabir est celui qui a une histoire particulière, car il a été à la cause de la première rencontre qui devait avoir lieu à Badr. Il y a c'est-à-dire qu'on parle trois fois dans la sirah de Badr. La première, c'est celle où il n'y a pas eu de combat. La deuxième, c'est celle qui est connue de tous. Et il y a ensuite la troisième dont on a parlé. Quelle est la cause de la première rencontre de Badr qui devait avoir lieu mais qui n'a pas eu lieu? C'est Kurz ibn Jabir, radiallahu anhu, qui était mécréant à cette époque. Il s'est introduit dans la ville de Médine et a dérobé des chamelles puis a pris la fuite avec les chamelles. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu que cet homme a volé aux musulmans les chameaux et a pris la fuite, il a donné l'ordre aux compagnons d'aller à ses trousses le rattraper. Ils sont arrivés jusqu'à Badr et c'est là qu'il a pris la fuite sans que les musulmans ne puissent le rattraper. Il a donc pris la fuite. Mais Allah tabaraka wa ta'ala lui avait écrit cette fuite en réalité, puisque il l'a guidé à l'islam, il est devenu musulman. Il se repentit à Allah tabaraka wa ta'ala et revenu à Médine en tant que croyant. Ensuite, des hommes sont venus, ils sont appelés Al-Uraniyoun. Ce sont des gens qui n'avaient pas l'habitude de Médine. Ils sont venus émigrer à Médine et se sont plaints au prophète sallallahu alayhi wa sallam de douleur à l'estomac. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces hommes-là: allez chez les bédouins qui élèvent les chamelles, buvez de l'urine et du lait de ces chamelles, peut-être Allah Azza wa Jal vous donnera la guérison. Ils ont été chez les bédouins, ils ont bu le lait de chameau et l'urine de chameau. Et d'ailleurs c'est une sunna, ça fait partie de la médecine prophétique de boire l'urine du chameau. Il y a beaucoup de guérison dedans, même si le goût est amer. Pour ma part, je n'ai pas goûté. Même si j'avais l'occasion, je n'ai pas goûté. Ils ont bu de ce lait et de cette urine, ils ont été guéris. Ils ont tué les éleveurs de chameaux, ont volé les chameaux et se sont sauvés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre aux compagnons de les rattraper. Qui est le compagnon qui les a rattrapés? C'est Kurz ibn Jabir radiallahu anhu. Celui qui lui-même avait volé des chameaux au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui avait pris la fuite. Donc Allah tabaraka wa ta'ala l'a non seulement guidé à l'islam, mais lui a accordé un repentir en faisant le contraire de l'action qu'il a commise en désobéissant à Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit son entrée à la Mecque sur sa chamelle, la tête recouverte d'un casque. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب على ناقته وعلى رأسه المغفر ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل. Le prophète صلى الله عليه وسلم maintenant entre à la Mecque. Ibn Kathir dit: le prophète صلى الله عليه وسلم fit son entrée à la Mecque sur sa chamelle, la tête recouverte d'un casque. Par humilité envers son Seigneur Tout-Puissant, sa tête était à deux doigts de toucher l'avant de sa selle. Imaginez-vous, après toutes ces années d'efforts, de guerre, d'endurance, d'épreuves, de difficultés, il voit que maintenant, il entre à la Mecque en tant que conquérant. Il va reprendre la Mecque, ce village qu'on lui a volé et qu'il aimait tant. Alayhi salatu wassalam. Il se souvient qu'il est parti de rien, si ce n'est la base de toutes les bases, le tawhid, et l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il voit le fruit du tawhid après ces longues années, la conquête de la Mecque. Alors, il rabaisse sa tête devant la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, et dans une version rapportée par Al-Bukhari, il récite surat al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina. Nous t'avons accordé une victoire éclatante jusqu'à la fin de la Surah, la tête baissée, plein d'humilité devant la grandeur d'Allah. Alors que il est connu des conquérants, lorsqu'ils s'emparent d'une contrée ou d'un village, qu'ils y entrent la tête haute, peut-être parfois plein d'orgueil. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un conquérant comme les autres. Il sait que c'est grâce à Allah qu'il est rentré à Mecca, et alors il se rabaisse devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقد أمن صلى الله عليه وسلم الناس إلا عبد العزى ابن خطل وعبد الله ابن سعد ابن أبي صرح وعكرمة ابن أبي جهل ومقياس ابن سبابة والحويرث ابن نقيد وقينتين لابن خطل وهما فرتنا وصاحبتها وسارة مولاة لبني عبد المطلب، فإنه صلى الله عليه وسلم أهدر دماءهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا حتى ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة. فقتل ابن خطل وهو متعلق بالأستار، ومقياس ابن سبابة والحويرث بن نقيد وإحدى القينتين وآمن الباقون. ابن كثير رحمه الله تعالى continue. Il nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam accorda sa protection à tous les Mekwa, à l'exception de Abdul Uzza ibn Khatal, Abdullah ibn Sa'd ibn Sarh, Abi Sarh, Ikrima ibn Abi Jahl, Miqyas ibn Subaba, Al-Huwayrith ibn Nuqayd, ainsi que deux chanteuses appartenant à Ibn Khatal, qui sont Fartana et son ami, et enfin Sarra, l'esclave des Bani Abd al-Muttalib. Lorsqu'il est entré à la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti la sécurité pour tout le monde, à l'exception de ces personnes, en raison du mal ô combien grand qu'ils avaient commis à l'encontre des musulmans. Ils ont tué des gens, ils ont participé à l'exécution de croyants, et ils ont insulté Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a dit: ne touchez personne sauf ces gens-là. Si vous les attrapez, même accrochés à la Kaaba, exécutez-les. Et dans un hadith, on voit ceux parmi eux qui ont été exécutés. Parmi eux, Ibn Khatal. Ibn Khatal a été exécuté alors qu'il s'accrochait à la Kaaba, pensant que cet acte allait le protéger. Il croyait que comme il était accroché à la Kaaba, on n'allait pas le tuer. Les sahaba radiallahu anhum l'ont exécuté devant la Kaaba, alors qu'à la base c'est interdit, mais il y avait exception pour ces hommes-là. Le deuxième, c'est Miqyas ibn Subaba, qui a été exécuté par son cousin. Les autres, certains ont été exécutés et d'autres ont pris la fuite. Parmi ceux qui ont pris la fuite, il y a Ikrima ibn Abi Jahl, le fils d'Abu Jahl, qui s'est sauvé dans le bateau en direction du Yémen ou bien de l'Éthiopie. Et alors qu'il était en mer, les vagues ont commencé à frapper les unes après les autres ou bien les unes contre les autres. Les gens se sont mis à dire « Akhlisou, Akhlisou, soyez sincères envers Allah, invoquez Allah seul, فَإِنَّهُ لَا يُنَدِّيكُمُ الْيَوْمِ إِلَّا اللَّهِ » Car aujourd'hui, seul Allah peut vous secourir. Ikrima observe ces gens-là. Il se dit: إِذَا كَانَ الَّذِي لَا يُنَدِّينَ مِنْ هَذِهِ الْقُرْبَ إِلَّا اللَّهِ فَكَذَلِكَ لَا يُنَدِّينَ فِي غَيْرِهَا إِلَّا اللَّهِ. Si aujourd'hui seul Allah peut nous secourir, à plus forte raison, seul Allah peut nous secourir à tout instant. Et puis il a prononcé ces paroles dans lesquelles il a fait un pacte avec Allah. Et il a dit: Allahumma, ô Allah, u'ahiduka, je fais le pacte et je m'engage avec toi. Innajayta minha, si tu m'accordes le secours devant ce danger, la adhabanna ila Rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam. ولا اخذن يده ولا ادخلن في دينه ولا اجدنه رؤوفا رحيما. Il dit: والله يا الله, si tu me sauves aujourd'hui, je vais voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je mets ma main dans la sienne, je lui prête allégeance, j'adhère à sa religion, et certes il sera doux et compatissant envers moi. Et Allah azza wa jalla l'a exaucé, il a quitté la barque et a regagné la terre. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est converti à l'islam et il a rejoint le rang des musulmans. Alhamdulillahi rabbil alamin. Et donc les autres, ceux qui n'ont pas été exécutés parmi eux, se sont convertis à l'islam. Il ordonna que tout cela soit exécuté où qu'ils se trouvent, même s'ils s'accrochaient au voile de la Kaaba. Et de fait, Ibn Khatal fut tué alors qu'il était accroché au voile de la maison sacrée. De même, furent exécutés Miqyas ibn Subaba, exécuté par son cousin, Al-Huwayrith ibn Nuqayd et l'une des deux chanteuses. Quant aux autres, ils embrassèrent l'islam. À la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lava dans la maison de Ummuhani. Ummuhani bintu Abi Talib. Ummuhani, c'est la fille de Abu Talib, c'est la cousine paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'y accomplir 8 rak'ah, chaque paire ponctuée par des salutations. Certains affirmèrent qu'il s'agissait de la prière de la matinée, alors que d'autres furent d'avis qu'il pria ainsi pour célébrer la conquête de la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre dans la Mecque, réussit à conquérir ce village tant aimé par le prophète alayhi salatu wa sallam. Il entre dans la maison de sa cousine Ummuhani. Il se lave et accomplit 8 unités de prière, 8 rak'ah. À chaque paire de 2 rak'ah, il prononçait les salutations alayhi salatu wa sallam. Mais ceci fait l'objet de divergence chez les savants, car certains ont dit qu'il n'a prononcé les salutations qu'après les huit unités de prière. Ensuite, ils ont également divergé sur le nom de cette prière. Est-ce que l'on dit qu'il a prié salat ad-duha, la prière du matin, qui fait partie de la sunna, ou bien salat ul-fath, la prière de la conquête? Et il est connu dans l'histoire de l'islam, dans les conquêtes, que beaucoup parmi les conquérants, quand ils entraient ou pénétraient dans une ville qu'ils avaient réussi à conquérir, ils y priaient cette prière-là pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah est plus savant du nom de cette prière. Selon As-Suhayli, c'est un savant et qui a écrit Ar-Rawd al-Unuf, un livre dans la biographie. Sa'd ibn Abi Waqqas effectua cette prière dans le palais du roi des Perses. À ceci près que Sa'd pria 8 rak'ah consécutives, terminées par un seul taslim. Sa'd ibn Abi Waqqas est connu. C'était un conquérant, radiallahu anhu. Et quand il a conquis cet endroit, il y a prié 8 rak'ah pour suivre cette sunna, si on peut l'appeler ainsi. Mais il n'en est rien. Il prononça en réalité les salutations après chaque paire de prières, après chaque paire de rak'ah, comme le rapporte Abu Daoud. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit et se dirigea vers la maison sacrée autour. Autour de laquelle il effectua les circumambulations d'arrivée, mais sans accomplir le sa'i, le va-et-vient entre Safa et Marwa, car il n'était pas venu avec l'intention de réaliser une umrah. Il demanda ensuite les clés de la Kaaba dans laquelle il pénétra. Puis il ordonna que les images qui s'y trouvaient soient effacées et les statues jetées à l'extérieur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à trouver autour de la Mecque, de la Kaaba, 360 statues qui étaient toutes adorées en dehors d'Allah. Il se mettait à lancer ses flèches pour viser ces statues qu'il cassait en récitant la parole d'Allah Azza wa Jal, « وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقًا » et dit « La vérité est apparue et le faux s'en est allé, le faux est voué à la disparition. » Puis quand il est entré dans la Kaaba, alayhi salatu wassalam, il y a trouvé des dessins sur les murs de la Kaaba où étaient représentés Ibrahim et Ismaïl, alayhi salam, en train de tirer au sort, de faire ce qu'on appelle al-istiqsam ou bil-azlam. C'était une pratique du polythéisme qui consistait à faire cette chose-là pour savoir si on va entreprendre la chose que l'on veut faire ou non. Il prenait des flèches sur lesquelles ils écrivaient oui ou bien non ou bien vas-y ou n'y va pas, et dans d'autres je m'abstiens. Et ensuite il devait prendre une flèche. Si sur cette flèche était écrit vas-y, alors il allait faire ce voyage qu'il voulait entreprendre. N'y va pas, il n'y allait pas. Et il se disait que s'il y allait, il allait avoir un malheur. Je m'abstiens, il recommençait ce tirage au sort qui est en vérité du polythéisme. Wal'iyadu billah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effacé ses dessins et a dit Mastaqsama bil azlam. Notre père Ibrahim n'a pas fait, ne s'est pas adonné à cette pratique. Ibn Kathir rahimahullah continue et dit Bilal lança ce jour-là l'appel à la prière sur le toit de la Kaaba. C'est donc à ce moment-là que Bilal radiyallahu anhu a fait ce premier appel à la prière. Et à la base, en ce qui concerne l'appel à la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait la façon d'inviter les gens à la prière. Certains ont dit, ont proposé au prophète alayhi salatu wa sallam de le faire avec les cloches. Le prophète a dit non, c'est la pratique des chrétiens. Certains ont proposé d'avoir la même façon de faire que les juifs. Le prophète a dit non. C'est là qu'un compagnon a vu en rêve l'appel à la prière et l'a informé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a ordonné à ce que soit fait l'appel à la prière. Bien sûr, ceci a été fait longtemps avant la conquête à Médine. Bilal a fait son premier appel alors qu'il était sur le toit de la Kaaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au peuple de Quraysh rassemblé devant lui ماذا ترون أني صانع بكم؟ À votre avis, que vais-je faire avec vous? Maintenant, remémorez-vous tous ces instants de guerre, d'animosité, de combat, de lutte, d'envie de tuer les musulmans. Et là, le prophète alayhi salatu wa salam vient, il réussit à conquérir la Mecque et leur dit, à votre avis, qu'est-ce que je vais faire avec vous? Et eux lui disent, Akhun Karim Ibn Akhin Karim, tu es un frère noble et tu es le fils d'un frère noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit أقول لكم كما قال يوسف لإخوانه لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. Je vous dis la même chose dite par Youssouf à ses frères, nul grief aujourd'hui contre vous, qu'Allah vous pardonne, il est miséricordieux, il est le plus grand des miséricordieux. Et subhanallah, le peuple de Quraysh qui voit ça se dit vraiment l'islam est la vérité. Et eux ne cherchent pas la dunya. Ils ont eu tout ce que nous on a cherché à avoir avec les armes. Et eux, maintenant, nous disent nul grief pour vous, pas de reproche, allez-vous-en. Celui qui veut s'en aller, qu'il y aille. Et donc, c'est ce qui a fait que ces gens-là se sont tous convertis à l'islam. Walhamdulillah. Et le nombre des musulmans n'a fait que croître et grandir à partir de ce jour. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendit les clés à Uthman ibn Talha ibn Abi Talha. Il lui rendit les clés car c'est cette famille qui avait la charge de la clé de la Kaaba. Et d'ailleurs, jusqu'à nos jours, ce sont ses descendants qui possèdent les clés de la Kaaba. Et quand le roi veut rentrer dans la Kaaba, car il le fait chaque année, il vient avec les descendants de cet homme-là qui ont la clé et qui lui donnent pour l'ouvrir. Il confirma donc son clan dans sa fonction de gardien de la Kaaba. La conquête de la Mecque avait eu lieu le 20e jour du mois de Ramadan. Il ne jeûna pas non plus jusqu'à la fin du mois et continua à raccourcir ses prières tout en demandant aux habitants de la Mecque de ne pas raccourcir leurs prières, même en priant derrière lui, comme le rapporte An-Nasa'i à travers une chaîne de narrateurs authentiques d'après le récit d'Imran ibn Hussein, qu'Allah l'agré. Ceci étant dit, il y a l'imam al-Albani rahimahullah qui a jugé faible ce récit que nous rapporte l'imam ibn Kathir. Au lendemain de la conquête de la Mecque, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononça un prêche dans lequel il soulignait la sacralité de la Mecque où les combats ne furent autorisés à nul autre avant lui et ne le seront à personne après lui. Les combats ne lui furent d'ailleurs permis qu'une seule heure de la journée. Puis, il envoya des troupes afin d'appeler à l'islam les tribus arabes vivant aux alentours de la Mecque. Et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a par la grâce d'Allah azza wa jal conquis sa ville natale, la ville de Mecca. Et après la conquête de la Mecque, les musulmans ne vont cesser de grandir en termes de nombre, de force, et vous allez voir les suites, inshallah. Wallahu alam. Sallallahu wa sallam. Wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.